Alors, Sénat de Belgique, session de 2003-2004, le 17 mai 2004. Proposition de loi interdisant à toute société faisant appel public à l'épargne en Belgique de détenir une participation directe ou indirecte dans une société ayant un siège social dans un paradis fiscal. Déposée par Monsieur Galland. L'année écoulée a une nouvelle fois démontré que le recours à ce qu'il est convenu d'appeler des paradis fiscaux constitue une pratique courante des sociétés multinationales ou non, faisant appel à l'épargne publique. Or, le recours à ces paradis fiscaux, notamment en raison de l'opacité qu'ils offrent à leurs utilisateurs, est au cœur de nombreux scandales financiers récents qui ont touché de grands groupes internationaux et semblent ne devoir plus s'arrêter. Les chutes vertigineuses de cours et les faillites de sociétés ayant fait appel à l'épargne publique ont fait perdre beaucoup d'argent cette année aux petits épargnants qui, en toute confiance, ont placé leur argent auprès d'elles. Des économies souvent accumulées pendant une vie entière. Que ces gigantesques scandales mettent en lumière des éléments strictement frauduleux ou simplement une gestion et un contrôle défaillants, on constate que les entreprises concernées utilisaient le recours à un système de filiales ou sous-filiales dans des paradis fiscaux pour brouiller le contrôle et l'information des petits épargnants. Lancé il y a quelques années par 7 magistrats européens, dont le belge Benoît Degemep, l'appel de Genève dénonce l'impunité dont jouissent les trafiquants internationaux et l'impuissance de la justice face à la criminalité organisée. Il dénonce également l'économie souterraine qui prend sa source dans la mondialisation des échanges et dévoile le jeu des mécanismes financiers complexes bénéficiant de la complaisance des paradis fiscaux. La portée de cet appel ne se limite donc pas à des difficultés spécifiquement judiciaires et vise à s'attaquer à l'ensemble des problèmes soulevés par la mondialisation des échanges financiers dans le cadre des pratiques commerciales et financières internationales actuelles. L'objectif de l'appel de Genève consistait à tirer la sonnette d'alarme et, pour le dire avec Renaud van Rumbeek, au-delà se situe le champ d'action de l'homme politique, pas celui du magistrat. La balle est dans le camp des législateurs qui ont le pouvoir de changer les choses. Si cet appel n'avait pas suffi, l'actualité récente démontre aujourd'hui à suffisance qu'il est désormais indispensable et urgent de s'engager sur le plan du droit dans le sens d'une régulation étatique des pratiques financières internationales, de la sauvegarde de la sécurité des petits épargnants et de la transparence des entreprises faisant appel à l'épargne publique. Comme le souligne simplement Jean-Marie Messier, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre pour une entreprise, c'est sa capitalisation boursière. Plus un titre vaut cher, plus on a d'argent dans son portefeuille pour faire son marché. S'il baisse, non seulement on ne peut plus rien acheter, mais on peut vous reprendre pour pas cher. C'est le carnet de chèques. Les vrais banquiers aujourd'hui, ce sont les actionnaires. Cette conception de plus en plus répandue de l'entreprise consiste à la considérer comme un objet financier dont il s'agit d'accroître la valeur boursière par tous les moyens. Rachat d'actions, fusion-acquisition, vente des unités les moins rentables, montage financier, etc. Ainsi, l'apogée puis la faillite d'Enron, n'ont rien à voir avec son activité industrielle, le négoce du gaz et de l'électricité, mais proviennent uniquement de ses activités financières. De même, Vivendi Universal est devenu un holding financier constitué d'un empilement d'actifs financiers sans cohérence industrielle et destiné à créer de la valeur pour les actionnaires. Pour que les cours de l'action qui commandent la valeur de leurs options continuent à progresser, les dirigeants d'entreprises sont tentés de manipuler les résultats pour les faire apparaître plus beaux qu'ils ne le sont en réalité. Dans le système actuel, le recours aux filiales et sous-filiales dans les paradis fiscaux permet d'y arriver et de truquer plus ou moins facilement les comptes pour afficher à tout prix les résultats attendus, au détriment de millions de petits épargnants n'ayant aucun moyen d'opérer des choix éclairés par la situation réelle de l'entreprise à laquelle ils ont en toute confiance, confier leurs économies. Les désastres en chaîne auxquels nous assistons aujourd'hui révèlent ainsi des dysfonctionnements graves, pour ne pas dire la faillite du capitalisme boursier, porté au nu il y a peu par la plupart des professionnels et des médias. Professionnels parfois eux-mêmes complices des manipulations comptables et financières malhonnêtes qu'ils sont censés dénoncer, cabinets d'audit et autorités de contrôle mises en cause dans de nombreuses affaires. Ou plus simplement, et à l'instar des épargnants, grugés par les discours officiels d'entreprise, masquant une réalité parfois catastrophique. Les pouvoirs publics nationaux et supranationaux doivent être les régulateurs de la volonté de puissance des firmes privées. Les règles qui gouvernent les échanges et les investissements mondiaux doivent être modifiées et mises au service de l'intérêt public. En effet, le système financier international sur lequel reposent les pratiques révélées par ces derniers scandales d'ampleur inédite permet d'autant plus difficilement de dégager des responsabilités individuelles qu'il jouit d'une prétendue capacité à l'autorégulation. L'État doit prendre ses responsabilités en assurant la sécurité des épargnants et en jouant son rôle de régulateur du système financier. Actuellement, le système mise sur une autorégulation du marché qui ne parvient cependant pas à assurer cette sécurité. L'intérêt général est gravement mis en cause par l'absence d'intervention régulatrice de l'État en la matière. Le rôle de l'État est de sauvegarder l'intérêt de tous, et en particulier des plus faibles, épargnants peu ou mal informés, et l'intérêt général. Réguler, c'est attaquer à la machine, c'est s'attaquer au système. Mettre des mécanismes en place, arbitrer, fonder un projet de société qui rétablit le droit et la loi au service de l'intérêt général. L'utilisation de filiales et sous-filiales dans des paradis fiscaux a trop souvent clairement pour objectif de brouiller des pistes de l'information dans le but d'optimiser des profits aux dépens de l'intérêt des petits épargnants et d'assurer une absence de transparence favorisant la fraude fiscale, réduction du taux de fiscalité moyen du groupe, transmission d'un patrimoine à des héritiers, détournement de fonds à des fins sans rapport avec l'objet social de la société, financement de tentatives de corruption, etc., ce qui nuit à l'intérêt collectif, c'est-à-dire à l'ensemble des personnes physiques et morales concernées qui doivent compenser le manque fiscal. En l'absence de volonté politique internationale suffisamment forte de mettre au pas les paradis fiscaux et ayant parfois eux-mêmes recours à eux, les États se sont jusqu'ici limités à proférer des déclarations d'intention laissées sans suite, en dépit par ailleurs du manque à gagner pour la collectivité du fait du recours à ces pratiques. Cette question, nécessitant d'être réglée à un niveau européen pour être pleinement et efficacement appréhendée, il serait pertinent que la Belgique initie le mouvement en se dotant d'une législation exemplaire susceptible d'entraîner un large mouvement de soutien au niveau européen. L'action politique, qui a été légitimée par le vote du citoyen, peut encore et doit s'exercer pour changer la logique nuisible d'une mondialisation des échanges dérégulés pour promouvoir le bien commun. Les paradis fiscaux sont devenus des intermédiaires financiers majeurs, mais ils n'assument pas les responsabilités liées à ce nouveau statut. L'endettement démesuré de certaines entreprises a été caché via le recours à leurs filiales dans ces paradis fiscaux. La mondialisation nous oblige à repenser la réglementation des activités financières, non plus sur une base nationale ou régionale, mais européenne et mondiale. Il est indispensable d'imaginer de nouveaux mécanismes incitatifs, voire coercitifs, pour le respect des règles internationales. Un consensus apparaît sur la nécessité d'élaborer de nouvelles normes internationales, de transparence des personnes morales, de réglementation financière, de contrôle et de coopération, afin d'éliminer autant que possible les effets néfastes de la mondialisation financière. Conjugué au flot ininterrompu d'affaires mettant en cause des paradis fiscaux et des sociétés écrans, les pressions politiques ont ôté son aura de respectabilité et de chic à la finance offshore. Il est temps aujourd'hui de faire un pas de plus sur la voie de la mise en place d'un système qui débouche sur une véritable transparence du système financier international. Pierre Galland. Avec une proposition de loi qui s'énonce comme suit. Article 1er. La présente proposition de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Article 2. Toute société faisant appel public à l'épargne en Belgique, conformément à l'article 438 du Code des sociétés, ne pourra détenir une participation directe ou indirecte dans une société ayant un siège social dans un paradis fiscal. Article 3. Le roi établit la liste des paradis fiscaux et les critères qui déterminent le lien de participation directe ou indirecte entre deux entreprises. Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, le 26 mars 2004. Pierre Galland, une fois de plus.